Alors, donc aujourd'hui, l'émission, c'est à l'école ou en classe, comment accompagner un enfant en deuil. Les précédemment, j'avais expliqué un peu en trois parties, quelle est la conception de la mort pour un enfant. Ensuite, que peut-on faire au moment des rites, au moment de la mort de la personne, dans les jours et les quelques mois autour de cette date. Et troisièmement, que peut-on faire pendant les 10, 15, 20 ans qui séparent la mort de cette personne pour l'enfant et son âge adulte. Aujourd'hui, je me permets de faire une émission sur l'école, comment on accompagne, on aide un enfant qui est en deuil à l'école. Moi, personnellement, pourquoi je fais cela, c'est que comme j'ai été 38 ans prof en collège, et que j'ai accompagné de fait sur le terrain beaucoup d'élèves en deuil, où j'ai également vu plusieurs fois des élèves mourir dans ma classe ou dans la classe à côté. Donc j'ai vécu ces événements-là avec l'équipe pédagogique. Voilà, donc je commence par un constat, c'est-à-dire qu'on ne le sait peut-être pas, mais les orphelins sont des enfants quasiment invisibles à l'école. C'était le titre d'un article il y a quelques années dans le Figaro, qui était très bien fait. Les orphelins sont invisibles à l'école. Alors, on se demande pourquoi. Mais c'est parce que, en fait, on ne parle pas beaucoup d'eux, parce qu'on n'a pas envie de parler de ce sujet qui est tabou, la mort. Et ces enfants sont pourtant un ou deux par classe. On dit même qu'au lycée, ils sont forcément deux, parce qu'ils sont plus grands. Or, cet événement qu'ils ont vécu va les suivre toute leur vie. C'est-à-dire qu'il y a des professeurs qui, je raconterai tout à l'heure un exemple, qui disent, oh ben oui, c'est passé, tout ça, c'était quand il était petit. Or, on n'a qu'une maman, qu'un papa. Donc, comme je vais parler surtout de la mort d'un parent, d'un grand-parent, mais surtout d'un papa ou d'une maman pour un enfant qui est en classe, devant un tel tsunami, eh bien, c'est quand même une souffrance très grave et qui va durer pour lui, une situation qui dure. Et en fait, il est toujours préférable, évidemment, que l'environnement reste stable, c'est-à-dire qu'il garde son école, ses amis, qu'il ne déménage pas, parce que la dynamique familiale est très bouleversée. Mais en fait, c'est difficile aujourd'hui parce qu'autrefois, le village, les voisins avaient un rôle essentiel pour accompagner cette famille en deuil, la famille entière. Voilà, donc dans la réalité, les orphelins grandissent souvent oubliés de tous, des politiques, de la société, et donc de l'école. En partie parce que la mort est un sujet tabou, comme je disais, donc c'est vraiment quelque chose qu'on n'a pas envie d'aborder. D'ailleurs, les enseignants, qu'ils soient en primaire ou en secondaire, ne sont pas formés à cette situation, à cet accompagnement. Ils sont formés à des tas de choses, ils suivent des formations sur la drogue, sur le divorce, sur les addictions de leurs élèves, des jeunes en général, mais il y a très peu de formations sur la mort. Et personnellement, j'ai animé des formations en collège, en primaire, et c'était vraiment très intéressant parce que l'équipe pédagogique, quand ils sont une trentaine, c'est-à-dire un groupe pas trop grand et qui se connaissent bien, c'est incroyable ce qui se passe pendant cette formation, les échanges qu'il y a entre eux, les confidences qu'ils se donnent, et donc le lendemain, rien ne sera plus comme avant parce qu'ils ont échangé entre eux des choses qui ne s'étaient jamais dites. C'est ce que j'ai vécu personnellement. Pourtant, ces orphelins qui sont en classe, ils ont des problèmes de scolarité, ils ont des problèmes de mémorisation, de concentration, ou alors ils ont un surinvestissement pour oublier un peu. Enfin, il y a différentes attitudes. Et comme les enfants vivent toute la journée dans l'école, alors quand ils sont en primaire, c'est différent du collège, mais ils vivent toute la journée, c'est un lieu donc très important, entre guillemets, du retour à la vie normale. Non pas que la vie d'après soit normale sans leur mère ou sans leur père, mais c'est quand même un retour qui essaye de stabiliser la vie. Alors, je vais d'abord expliquer la situation de ce qui se passe en classe, c'est-à-dire comment ça se présente en primaire et en collège. Puis ensuite, on verra ce qu'on peut faire, ce que peuvent faire les différentes personnes concernées, c'est-à-dire les parents, et puis tout ce qui est accompagnateur éducatif, c'est-à-dire CPE et compagnie. Donc, D'abord à l'école. Alors, je pense que les parents qui ne sont pas dans un cadre scolaire, sauf ceux qui, il y en a quelques-uns qui sont à ce titre, mais les parents qui ne vivent pas en classe ne s'imaginent pas tout ce qui se passe en classe, toutes les conversations, toutes les remarques, tous les moments où l'enfant qui est en deuil. Ah oui, j'ai oublié de vous dire que il y a donc deux sortes de deuil. Il y a soit l'enfant qui est en deuil parce qu'il a perdu papa, maman, son grand-père, sa grand-mère. Quelquefois, il a perdu quelqu'un que nous ne connaissons pas, mais qui est très important pour lui, mais nous, on ne le sait pas, parce que c'est une cousine qui habite loin, un ami. Donc, il peut être très perturbé et on n'a pas su pourquoi. Mais donc, pour ces enfants, dans le cadre scolaire, eh bien, donc les deux sortes de deuil, et l'autre, c'est l'enfant qui meurt en classe. Moi, ça m'est arrivé trois fois dans ma carrière, en 38 ans. Mais évidemment, c'est peut-être rare et ça n'arrive peut-être pas à tout le monde. Mais moi, je suis très étonnée. J'ai déménagé 8 fois, mais ça m'est arrivé trois fois qu'un enfant de la classe ou de la classe juste à côté meurt. Donc, ça arrive. Ça, c'est encore un autre problème. Donc, en primaire, il faut se dire d'abord que en primaire et maternelle, l'enfant est plus proche de sa maîtresse parce qu'il la voit toute la journée, elle le connaît bien, donc elle a plus de facilité à l'écouter, à le laisser parler. Un enfant, souvent, il raconte des choses hein, jusqu'à peut-être 5, 6, 7 ans. Peut-être pas à 11 ans, en CM2, je pense pas. Mais il parle davantage, il raconte ce qu'il veut, et puis on l'écoute. Donc sa maîtresse a une grande importance pour lui. Donc un enfant petit, il raconte des choses à sa maîtresse quand il s'est arrivé à la maison. Ce cas, c'est qu'on peut savoir ce qu'il raconte si on demande à la maîtresse ce qu'il a dit. Ensuite, ce petit enfant, je rappelle qu'il n'a pas la même conception de la mort que l'adulte, donc il ne sait pas que c'est irréversible. Et même s'il parle de la mort de sa maman, de son papa, on peut se demander pourquoi il ne pleure pas, parce qu'il ne sait pas que demain, elle ne sera pas là. Non seulement je l'ai vécu personnellement, mais je veux dire que tout le monde dit ça, un enfant ne sachant pas que c'est irréversible n'a pas du tout la même tristesse apparente. Et donc, comme l'école est vraiment son lieu de vie et qu'il y passe la journée entière, c'est vrai que c'est plus facile qu'il y retrouve la paix. Donc, c'est pour ça que la maîtresse, l'instituteur, a un rôle essentiel pour cet enfant. Et il ne faut pas croire qu'il empiète sur l'autorité parentale ou sur le rôle des parents. Il joue un autre rôle très, très important. Et forcément qu'il va parler de ça avec cet enfant, puisque c'est ce que vit cet enfant. Et vous êtes, par exemple, imaginons qu'un enfant ait un accident, et un accident grave, ne puisse plus marcher, donc il vient en classe en fauteuil roulant, même petit, ça arrive, eh bien, la maîtresse s'intéresse à lui. Alors pourquoi la maîtresse, devant un enfant qui est, entre guillemets, handicapé affectif, d'après moi, j'ai expliqué ça longuement, je trouve que il est vraiment handicapé affectif tout à coup parce qu'il a perdu une de ses racines, donc c'est comme si on lui avait arraché un bras ou une jambe. Un morceau de son cœur a été vraiment abîmé et transpercé par cette douleur. Donc, cet enfant, on s'occupe de lui avec ce qu'il vit. Chacun, enfin, les maîtresses sont bien au service des enfants. Et je pense que quand ils sont petits, c'est encore plus palpable. Mais ces instituteurs et ces maîtresses ne sont pas du tout formés, donc ils risquent forcément de faire des bêtises. Je vous donne un exemple. Je pense à un petit enfant qui a 4 ans, qui est 4 ans et demi, c'était des moyens, je crois. Et il y avait une petite fille dans la classe, j'ai vécu cela avec un de mes enfants. Il y avait une petite fille dans la classe dont la maman, que nous voyons à la sortie de l'école, attendait un bébé. C'était donc le deuxième bébé. Mon fils rentre un jour en me disant, bah, tu sais ce qu'elle a dit, la maîtresse? Elle a dit que, ben non, finalement, la petite fille, là, non, je ne sais plus le nom, ben non, elle n'a pas de petit frère et de petite soeur parce qu'il n'y avait rien dans le ventre. Alors, moi, je suis effarée et je vais voir la maîtresse et je lui demande pourquoi elle a dit ça. Elle me dit, le papa m'a obligée à dire cela puisque c'est ce qu'il a dit à sa fille. Vous allez me dire que c'est effarant. Oui, mais c'est arrivé déjà. Donc, c'est que ça arrive d'autres fois. Alors, évidemment, il y a des instituteurs qui n'auraient pas pu répéter ça, parce que c'est pas possible de dire ça, de mentir. Surtout qu'il y a beaucoup d'enfants qui savaient très bien que le bébé, ben oui, tout le monde sait qu'une maman qui attend, elle a un gros ventre, donc elle attend un bébé. Voilà, donc ce genre d'exemple, c'est vraiment perturbant. Comment voulez-vous qu'on se remette facilement, quand on est un petit, de cette fausse nouvelle et qu'on intègre, on m'a pas dit la vérité, etc. Il y a tout ça qui joue. Donc en primaire, le contexte est vraiment le meilleur pour que les instituteurs soient proches des enfants. Donc la formation est essentielle. Ensuite, au collège, alors bien sûr, au collège, l'équipe des profs s'occupe de ce jeune, de cet élève au moment de la mort. Ils sont gentils avec cet enfant, ils ne l'embêtent pas, ils respectent son, s'ils le savent, ils respectent son, le manque de travail qu'il fournit. Bon. Mais je pense que les professeurs peuvent faire plus. Par exemple, un élève adolescent, il attend que des copains lui écrivent, même le jeune en primaire d'ailleurs, hein, dès qu'il sait lire, il attend que des copains lui écrivent ou que des professeurs lui écrivent. Il y a une maman qui m'a dit un jour, quand j'étais en sixième, ma petite sœur est morte. La seule professeure qui m'a écrit, c'est la professeure de maths que je n'aimais pas, qui était très sévère, et c'est la seule qui m'a écrit. Eh bien, tous les jours de l'année, j'avais sous mon oreiller sa lettre et je relisais sa lettre, qui était très courte. Aucun autre m'avait écrit. Bon, ensuite, il y a le problème des obsèques. Donc, bien sûr qu'il faut qu'un professeur aille aux obsèques, quelqu'un de l'équipe éducative, et puis quelques élèves, ceux qui veulent. Je trouve qu'on n'oblige pas une classe entière à aller à un enterrement parce que, je sais pas, ça me semble aujourd'hui pas tout à fait ajusté. Ensuite, ensuite, quand ce temps-là est passé, il y a les 6 mois qui suivent, l'année qui suivent. C'est très utile de repérer l'attitude de cet enfant, de cet élève, de voir comment il est, comment il se comporte, et même de demander à un professeur qui accepte de faire un peu le résumé de l'attitude de cet élève, par exemple au prof de français ou de maths qui le voit plus souvent, qui a 4 ou 5 heures de cours avec lui, et puis demander à tous les professeurs de faire remonter des remarques sur cet enfant qui est en deuil au collège, pour qu'on puisse en parler au conseil de classe. Et ça n'est pas être intrusif dans la vie de l'élève, hein. C'est s'occuper de lui et mieux l'aider en repérant ses difficultés apparentes ou perceptibles, mais pas apparentes, parce qu'on voit beaucoup de choses quand on regarde un enfant, quand on est en classe. Tout d'un coup, on voit que cet élève là-bas dans le coin, là, il n'est pas en face de moi, mais je vois bien qu'il pleure. Ben, je peux vous dire que quand un garçon de troisième, ça m'est arrivé, pleure en classe, je me dis, il faut qu'il ait vraiment une dose de souffrance telle qu'il ne peut pas s'empêcher de pleurer. Et pour qu'il fasse cela devant tous les autres, c'est qu'il est vraiment en souffrance. Eh bien, il me semble que c'est indispensable que le professeur devant qui c'est arrivé lui parle après, ose l'aborder en lui disant, ça ne va pas. Est-ce que tu veux qu'on en parle avec gentillesse et avec délicatesse? Et cet enfant, s'il sent cette approche gentille du professeur, je peux vous dire qu'il va vous dire, qu'il va vous parler et vous dire quelque chose, pas grand-chose, mais un peu. Quand je suis en conférence et que je mime l'arrivée d'un élève qui a été en deuil après l'enterrement, il est souvent agressif. Mais si vous voulez, vous arrivez à l'approcher de façon épisodique, hein, il faut lui parler, lui demander au moins comment ça va. Et je pense à un élève qui m'a raconté que aucun, après la mort de sa maman, aucun professeur ne lui a dit alors son prénom, comment ça va? C'est simplement ça. Rien que ça, au début, ça suffit pour s'intéresser à cet enfant qui n'a pas envie de parler, qui peut très bien vous rabrouer en disant fichez-moi la paix. Eh bien, il faut accepter que l'élève vous dise fichez-moi la paix. Enfin, je m'excuse de dire ça, mais il faut accepter parce qu'elle n'est pas contente, elle n'a pas envie. Simplement après, elle se dira, tiens, ce professeur, il s'est quand même intéressé à moi. Et un mois après, quand vous lui direz, comment ça va maintenant, comment ça s'organise chez toi, eh bien, elle se dira, tiens, cette prof, elle n'est pas si bête que ça, hein, celle-là. C'est la seule qui me parle. Elle n'est pas conne, comme m'a dit une élève en parlant de moi, longtemps après. 10 ans après, elle m'a dit, vous étiez la seule à m'avoir parlé. Et je m'étais dit, bah, elle n'est pas trop conne hein, par rapport aux autres. Voilà son langage. Et ensuite, alors l'autre chose très importante, quand vous avez en classe, en collège, ou en lycée, mais en collège surtout, des élèves qui sont apparemment insupportables, et dont vous avez vu dans leur dossier, parce que c'est très important d'aller voir les dossiers au secrétariat au début de l'année, pour voir les antécédents familiaux de chacun. Ça, je dis ça aux profs parce que c'est vraiment important et peu de gens le font, je crois. Donc, quand vous voyez qu'un élève a perdu 4, 5, 6 ou 7 ans avant son papa ou sa maman, eh bien, vous êtes capable de regarder comment il se comporte. Et en conseil de classe, c'est très important. Et le prof principal qui le sait peut dire, mais ce garçon, attention, il est orphelin, donc c'est pas étonnant que 4 ans après, en quatrième, il ait quelques... Voilà, alors je vous donne un exemple. En conseil de classe, en quatrième, j'avais un garçon qui avait perdu son papa en CM2. J'avais parlé de ça avec lui et dans sa copie de français, il en parlait. Donc moi, je le savais tout à fait, puis je l'avais vu sur le dossier. Et un jour, en conseil, un professeur dit, oui, ben écoute, ça va, son père est mort il y a 4 ans, c'est tout, c'est ancien, c'est passé. Alors moi, j'ai été outrée, abasourdie par cette remarque, un peu révoltée pour cet élève. Je suis donc intervenue quand il y a eu ensuite un moment de silence et j'ai dit, mais on parle bien de son papa. De qui parle-t-on là? Chacun de nous, on n'a qu'un papa. Alors, est-ce que vous croyez vraiment que pour lui, sa peine est terminée? Son papa n'est pas revenu, donc je ne comprends pas que vous traitiez ça à la légère. Il faut que vous imaginiez que c'est toujours et que sa peine est certainement plus grande quand ça lui remonte dans le cœur. Voilà. Parce que l'enfant, souvent, l'adolescent, il donne le change, hein. Il veut pas parler, peut-être pour protéger sa maman, par exemple, ou son papa, selon. Et puis aussi pour survivre, hein, parce qu'il voudrait être comme les autres, même si il n'a pas envie de se distinguer, mais en même temps, il a envie d'être reconnu avec sa souffrance. Donc, il a cette ambivalence qui est tout à fait spéciale et qui fait qu'il peut passer d'un comportement à un autre. À ce sujet, je précise que les professeurs de sport et de dessin sont très importants parce qu'ils ont un rôle de décompression, c'est-à-dire qu'en sport, on se défoule, et puis en dessin, la main qui travaille, et la continuation du cœur un peu, la main, le travail de la main, ça déploie ce qui est coincé en soi, ça permet de continuer et de mettre sur le papier ce qui ne veut pas sortir. Tout ce qui est artistique, c'est magnifique pour faire sortir, enfin on sait bien, pour faire sortir ce qui est dans son cœur et qui a du mal à et qui souffre. Entre parenthèses, je voudrais dire que par rapport au collège et au primaire, je peux faire, si vous avez des professeurs ou des maîtres ou des directeurs qui souhaitent une intervention, moi je peux intervenir dans n'importe quel collège avec l'équipe éducative. C'est très 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 utile et très riche pour la façon dont ils vont se comporter après, parce que je leur apporte des bouquins, des textes, et ils vont plus jamais être pareils, même s'ils ont du mal, certains, à changer, mais certains qui sont conscients désormais de la gravité de ce que vivent ces enfants, ils vont donc se comporter autrement. Alors maintenant, j'en viens à que faire dans ce cadre scolaire. Alors, il y a d'abord les parents, qui ont bien sûr, qui ne rentrent pas dans le cadre scolaire, mais qui sont en rapport avec le cadre tout le temps. Donc, je dirais aux parents d'abord, et je pense qu'ils ne savent pas tous, qu'il faut informer la hiérarchie tout de suite, évidemment, et qu'il faut très vite venir rencontrer la directrice et lui demander expressément comment elle va informer tous les enseignants, parce qu'il faut vraiment qu'ils soient clairement informés. Et ce parent, qui est le parent qui est vivant, par exemple, ou si c'est un grand frère, donc les parents, donc ils viennent dès le début. Ils vont voir aussi le professeur principal, qui normalement fait le lien entre tous les professeurs, pour lui expliquer quand même plus précisément comment elle se comporte. Vous voyez, puisque le directeur ne sait pas comment l'enfant se comporte en classe, ce sont les professeurs qui le savent. Donc, surtout si le décès a eu lieu pendant les vacances, les grandes vacances avant la classe de sixième, par exemple, ou même ou les grandes vacances, ou même des petites vacances de 2 semaines. C'est vraiment très difficile pour un enfant de revenir après que ça soit passé, parce qu'il y a des gens qui savent pas, il y en a qui ont oublié, il y a des élèves qui n'ont pas su, de toute façon. Donc, il faut non seulement prévenir la direction et les profs, mais aussi les parents, parce que maintenant, il y a des mails. On envoie des mails à tous les parents de la classe. Donc, maintenant, c'est indispensable de faire ça. Et les parents peuvent expliquer à la professeure principale comment réagit cet enfant à la maison et demander comment il réagit en classe, parce que ça n'est pas tout à fait la même chose de quelquefois. Et demander aussi aux amis de l'enfant comment elle réagit. Ensuite, dans les années suivantes, dans l'année qui vient et la deuxième année ensuite, il faut absolument revenir au collège régulièrement si l'enfant n'est pas très bien pour parler avec ce prof principal ou le prof précis. Pourquoi? Il faut, j'insiste, hein, même si les réactions des professeurs sont éventuellement, moi je les entends en salle des professeurs, les réactions. Oh, bah, madame Attal, elle commence à me faire suer. Mais on entend ça, si vous voulez, en salle des profs. Et moi, aussitôt, je réagis en disant, mais pourquoi tu dis ça? Bah, enfin, son mari est mort il y a 2 ans, alors pourquoi elle vient me parler de ça? Alors moi, j'explique que cet enfant, il est encore perturbé, forcément, et qu'il peut avoir une remontée de peine, vous voyez, à cause de quelque chose, d'un événement qui s'est passé, de la mort de quelqu'un d'autre, surtout si c'est son grand-père, sa grand-mère, enfin bref. Et donc, il faut absolument que cette maman, même si on la critique, qu'elle le sache ou pas, revienne dire, madame, soyez gentille, écoutez, j'ai besoin de vous parler, il n'est pas très bien en ce moment. Voilà. Et demander que soit dit en conseil de classe, comme j'expliquais tout à l'heure, tout ce qui a été dit, qui doit être dit en conseil pour que tout le monde soit informé et parle de cet élève. On peut aussi parler discrètement aux copines, aux amis. Voilà. Donc les parents, ils ont un rôle. Bah oui, ils ont un rôle pour que l'équipe éducative se bouge un peu et évolue et se rende compte de l'incidence, parce qu'il n'y a que la maman ou la tante ou la voisine qui peut se rendre compte de l'incidence. Et deuxièmement, les autres accompagnateurs éducatifs qui sont les CPE, les infirmières, les assistantes sociales, le médecin scolaire, les différents éducateurs, les animateurs de sport du collège ou de l'extérieur, mais tous ces gens éducatifs qui sont différents des profs, ils ont un rôle à jouer parce qu'ils voient très bien, ils ont un rôle différent. Ils peuvent parler avec l'enfant d'une autre façon parce qu'ils ne le voient pas en cours. L'infirmière, elle a souvent la visite d'enfants à son infirmerie qui ont mal au ventre ce jour-là, etc. Ben, il y a un rapport direct, hein, forcément, quand un enfant vient de perdre et qu'il veut. Ça veut dire qu'il veut quitter le cours, qu'il a envie de pleurer. Et comme il ne veut pas pleurer en classe, souvent, il va à l'infirmerie. L'infirmière, elle sait très bien tout ça. Et elle voit les répercussions sur cet enfant, de ce deuil et sur les copains. Donc, elle peut peut-être conseiller les parents, leur dire, ben voilà, voilà un nom de médecin qui peut l'aider, voilà une association qui peut l'aider. Parce que si vous voulez faire venir une association qui s'occupe du deuil comme famille de France à laquelle j'appartiens, c'est vraiment essentiel. Ça change tout dans la psychologie des profs. Et puis, cette infirmière, elle peut insister, elle peut faire, elle, dans un grand lycée, elle réunit tous les CPE pour discuter de ça. Elle peut donner des livres aux profs si elle est formée, elle est branchée sur ce sujet. Elle peut aussi conseiller des groupes de parole, puisqu'il existe des groupes de parole dans certaines grandes villes pour des enfants en deuil, adolescents, pour parler, à condition qu'il y ait l'accord des parents, évidemment. Voilà, donc tous ces éducatifs, ils ont un rôle important à jouer.
Merci d'être toujours avec nous et nous avons aussi Sandrine qui vient de nous rejoindre par téléphone. Bonjour Sandrine.
Oui, bonjour Radio Maria, bonjour à vous tous, bonjour Marie-Madeleine. Je me permettais d'appeler pour 2 choses. La première, c'est que, ben, toujours merci pour votre émission, pour ce que vous dites. Et ça rejoint, sans le savoir, ce que j'ai fait il y a une dizaine de jours auprès de professeurs de mon fils qui est maintenant en première. Ne pouvant aller à une réunion de parents-professeurs en individuel pour des raisons de santé, j'ai demandé si je pouvais téléphoner, enfin si l'un d'entre eux pouvait m'appeler pour qu'on puisse savoir un peu où en était Thomas. Et j'ai eu un seul professeur sur les contacts que j'avais, mais c'était suffisant puisqu'elle n'était au courant de rien et comprenait beaucoup plus de choses. Et je lui ai demandé d'être ce passeur. J'ai dit, s'il vous plaît, expliquez au reste de l'équipe qui est Thomas, comment, pourquoi. C'était un grand moment d'échange et j'ai bien compris que la personne avait été accueillante et bienveillante. Donc je ne me fais pas de soucis. Je n'écouterai pas dans les salles de profs. Si je rabâche, je rabâche pas, c'est pas grave. Oui, ça va faire 6 ans, mais c'était comme si c'était 1 an ou comme si c'était la semaine prochaine. C'est déjà là, c'est plus là et c'est toujours là. Donc merci, j'ai eu cette... Oui, je répéterai toujours. Un an, dites-leur, suivez nos enfants, oui, à n'importe quel âge. La deuxième chose, Marie-Madeleine, c'est que je voulais rendre grâce au Seigneur parce que j'ai eu, on peut appeler ça un miracle de Noël. Moi, dans mon cœur, je l'appelle comme ça maintenant. J'ai eu la chance que le Seigneur me mette sur le chemin quelqu'un qui se reconnaîtra, qui m'a appelé le jour de Noël alors qu'elle était en famille et est venue me rejoindre moi. Et m'a dit qu'avec toute sa joie et toute la fête qu'il y avait autour d'elle et toute l'agitation, a pris déjà le temps de m'appeler et m'a envoyé un petit cadeau. Ce petit cadeau, je l'ai avec moi, jour et nuit. C'était un petit peu dur au début. Parce que je ne savais pas comment le manipuler. J'avais peur de lui faire mal. Aujourd'hui, ce petit cadeau, il est avec moi, il promène, il marche avec moi tout le temps. Il dort avec moi. Et ça a transformé ma vie. Alors oui, un cœur blessé, un cœur en deuil, un autre enfant peut aussi venir, puisque c'est un petit enfant Jésus, peut venir guérir aussi nos blessures à tout âge. On est tous des enfants. On a tous un cœur d'enfant. Alors merci et surtout, il est lumineux la nuit dans nos obscurités. Il est lumineux. Merci. Je rends grâce au Seigneur. Marie-Madeleine, merci.
Merci Sandrine. Merci. Je comprends bien. Merci Sandrine. Oui. C'est important d'avoir dit que les professeurs ont un rôle à jouer, même 6 ans après, c'est ça, 7 ans après.
Ça va faire 6 ans.
Et oui, c'est tout à fait important.
Dans une semaine, oui.
Parce que les professeurs croient qu'en première, il est tout à fait capable de vivre sa vie, qu'il a assumé tout ça. Mais non, ça ne veut rien dire, cette histoire. C'est vraiment très important de retourner voir les profs.
Oui.
Merci.
Merci à vous tous. Merci à vous, Marie-Madeleine. Que Dieu vous garde tous. Merci pour la lumière dans l'obscurité. Et merci d'avoir de nous accrocher aussi les des enfants. Enfin, on a tous besoin aussi d'autres enfants. Enfin,
je comprends.
Il faut parler à nos cœurs d'enfants. Merci d'avoir parlé aux cœurs d'enfants. Merci. À bientôt.
Au revoir.
Voilà, pour le moment, pas d'autres réactions de nos auditeurs.
Je peux raconter un exemple ?
Tout à fait.
Et puis vous me couperez, hein, s'il y a quelqu'un, vous me coupez.
Très bien.
Alors, une petite fille, je vous donne un exemple. Une petite fille a perdu sa maman en 6e au collège. Les obsèques ont eu lieu le matin, mais on ne sait jamais comment l'information a été faite. Hein. Les parents ne peuvent pas savoir comment ça a été transmis, retransmis, si tout le monde est informé. Il peut arriver que l'un ne l'ait pas su. Bon. Elle retourne au collège, cette petite fille, dès l'après-midi. Elle veut absolument y retourner pour voir ses copines, ce qui est compréhensible. Et donc, on ne sait pas comment le message a été transmis. Et l'après-midi, il se trouve qu'elle est en classe et qu'elle devait rendre un devoir. Et puis, elle a oublié, forcément, dans l'histoire, elle a oublié ce devoir à la maison. Et son professeur lui demande pourquoi. Et tout comme ça, et à brûle-pourpoint, elle n'a pas envie de répondre, de parler de... Je sais tout. Elle n'a pas envie, donc elle répond, ben, je l'ai oublié. Bon, ben, tu as 1 heure de colle. Alors, elle avale la douleur, là. Et quand elle rentre chez elle, elle n'ose même pas avouer à son papa qu'elle est collée parce qu'elle a une peur, en fait, de dire... Ben, ce matin, c'est un enterrement de maman. Elle ne veut pas dire ça devant tous les élèves, donc elle invente n'importe quoi. Voilà, donc elle n'a pas dit la vérité. Ensuite, ça a été éclairci plus tard. Mais sur le moment, on peut imaginer sa tristesse, sa solitude, cet enfermement qu'elle a en elle. C'est coincé là-dedans. Et elle, c'est un imbroglio. Vous voyez, et ben ça, c'est tout à fait courant. Je vous raconte une autre histoire. J'étais en 3e, j'avais cours de latin à 8h un lundi matin. Et je venais d'apprendre en salle des profs que notre surveillante, attitrée, parce qu'on avait une surveillante pour les classes de troisième, avait perdu son gendre, un jeune papa, dimanche, la veille. Donc je venais d'apprendre ça. J'arrive en classe de latin, j'interroge une élève qui était une élève très sage, douée, enfin normale, quoi, qui faisait pas de bruit. Elle se lève et elle me dit, je n'ai pas appris ma leçon, madame. Et elle se met à pleurer, à sangloter. Alors moi, je me dis tout de suite, bon, il y a un problème là-dessous, c'est pas tout à fait normal. Il y a quelque chose derrière. Qu'est-ce qui s'est passé? Donc dans ces cas-là, je ne gronde pas la fille, évidemment, jamais. Quand un élève se met à pleurer comme ça, il faut jamais intervenir de façon sévère. Donc je sors à la porte avec elle, les autres révisent leur leçon, et je lui demande, mais qu'est-ce qui se passe? Et elle me dit, madame, je n'ai pas pu travailler ce week-end parce que, figurez-vous, ma maman, c'est la grande amie de la surveillante, de Madame Machin. Et donc, on a gardé les deux enfants du monsieur qui est mort. Et donc, ben, moi, je me suis occupée d'eux. Puis, maman s'est pas rendue compte que j'ai pas travaillé. Et elle ne m'a pas fait un mot ce matin. J'ai oublié de lui dire, fais-moi un mot pour dire que je n'ai pas fait mon travail parce que j'ai gardé tout le week-end. Et nous, on aurait compris, évidemment. J'ai gardé, ma fille s'est occupée des enfants de madame, des petits-enfants de madame surveillante. Voilà, vous voyez cet exemple-là. Elle avait sur le cœur beaucoup de peine, cette petite. En plus, elle risquait de se faire attraper. Elle ne pensait pas qu'elle serait interrogée. Voilà, donc ça s'est passé. Ce n'était pas grave du tout. Et puis, ce qu'il y a de bien, c'est que finalement, qu'elle a pu exprimer sa peine. Elle a pu sortir parce qu'elle devait en avoir gros sur le cœur. Et je ne pense pas que sa maman réalisait la peine qu'elle avait, elle, d'avoir vu ses petits-enfants en deuil et qu'elle se dit, mon sang, ils ont 4-5 ans, ils sont orphelins, si ça m'arrivait à moi. Vous voyez, il y a tout ça dans la tête de l'ado, hein. Donc je pense qu'elle était, voilà, que sa maman n'a pas réalisé la peine qu'elle avait, elle. Ensuite, voilà, je peux avoir un autre exemple. J'avais une élève en cinquième. Qui avait perdu. Sa maman plutôt était morte quand elle était en cinquième, moi je l'ai eue en troisième, en français. Elle passait son temps à se faire remarquer, cette jeune fille qui était fille unique. La maman avait une sclérose en plaques et cette maman est morte un jour en cinquième. Le matin, elle mangeait à la cantine, donc cette jeune fille préparait son plat devant la table où sa maman circulait en fauteuil roulant. Le plat était prêt. Et quand elle est rentrée à 4h30, sa maman était morte sur la table, sur son assiette. Donc c'est elle qui l'a découverte. Son papa rentrait tard le soir. Donc vous imaginez la souffrance qu'elle a dû avoir, elle qui avait depuis plusieurs années fait tout le boulot à la maison, en gros. Elle faisait un peu la cuisine, le repassage, enfin les choses simples. Peut-être pas le ménage, mais elle faisait quand même beaucoup de choses. Et elle se sentait certainement responsable un peu de sa maman. Eh bien cet enfant... Si vous voulez, elle était insupportable parce qu'elle se faisait remarquer. Il n'y a pas d'autre mot. Elle s'est habillée de façon extravagante. Elle voulait avoir son air indépendant. Vous voyez le genre en troisième. Voilà. Comment faire attention à elle? Comment lui donner de l'attention? Comment lui montrer qu'on comprend sa situation difficile, spéciale, parce qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui vivent ça. Hein. Fille unique, perdre sa mère à 12 ans et demi, quand on a déjà beaucoup aidé. Voilà, c'est bien le boulot du prof de faire attention à nos élèves, à ses élèves, et de les accompagner dans ce qu'ils ont à vivre, qui est tout à fait spécial. Voilà, un autre exemple. Je ne sais pas si je peux continuer.
Oui, on peut très bien écouter encore un petit peu.
Alors, oui, je raconte quelque chose que j'ai vécu. Béatrice, je l'avais en troisième, elle avait perdu sa maman. Quelques mois avant, donc pendant l'année scolaire, sa maman qui était malade et ils étaient au moins quatre à la maison. Et cette fille qui avait beaucoup de personnalité, qui était brune, je la vois encore, elle ne supportait pas ses copains, la moindre remarque de ses copains. Elle était agressive, à fleur de peau, vous voyez, un oursin, on appelle ça. Elle était vraiment agressive. Et un jour, il y a une altercation avec un garçon de la classe. On a su après qu'en descendant les escaliers, il avait dû lui dire une injure sur sa mère, mais il savait, enfin, je ne pense pas qu'il voulait vraiment critiquer sa maman qui était morte, mais il a dit l'injure habituelle de l'époque, vous voyez ce que je veux dire. Et puis elle a tellement mal pris cette injure, parce qu'elle avait beaucoup de personnalité, donc elle était capable de se disputer avec lui. Donc, elle a pris cette injure très mal, et elle était en rage. En sortant à 4h30, on sort dans la cour, et je vois cette fille en train de se battre, d'attraper ce garçon, à l'attraper. Lui, évidemment, il était plus fort qu'elle, donc il se battait. Elle avait des cheveux longs, en queue de cheval. Et je vois, tout à coup, je me suis dit, mais il va la tuer. Comme elle avait réagi en le mordant ou en faisant des choses difficiles que lui avait pas supportées, il était en train de lui tenir sa queue de cheval et il arrivait presque à la soulever. J'ai cru qu'il allait lui arracher les cheveux. C'est pour vous dire qu'il y a quelquefois des altercations comme ça qui deviennent gravissimes. Les garçons de la classe étaient incapables, ils étaient très inquiets, incapables de les séparer. Or, ils étaient plus forts que moi, hein, les garçons, le troisième. Donc, je leur demandais d'essayer de faire quelque chose. Ils n'y arrivaient pas. Donc, on a appelé la directrice. Et elle a réussi, par son ton, à les faire s'arrêter. Mais je veux dire, c'était abominable de voir sa douleur sur son visage et sa colère. Voilà, sa colère était vraiment... C'était juste après la mort de sa maman. Voilà un exemple auquel on assiste quand on est prof. Il y a plein de choses comme ça qu'on vit et qui ne sont pas du tout... C'est pas du tout anodin. Je voudrais dire aux gens qui ont écouté cette émission et qui ne sont pas du milieu scolaire qu'ils peuvent, puisque sur le site de Radio Maria, il y a le podcast avec le lien de l'émission. Moi, ça m'arrive souvent d'envoyer le lien à quelqu'un qui me demande un conseil et qui n'a pas écouté l'émission. Donc, je trouve que cette émission sur l'école, si vous connaissez des professeurs, des directeurs, des principaux, des proviseurs, des directeurs d'école primaire à qui ça ferait du bien, d'après vous, d'écouter cela, parce que ça leur apprendrait quelque chose. J'aimerais bien que vous transmettiez ce lien, puisque vous savez que je peux donc intervenir dans n'importe quelle école de France, n'importe quel collège, auprès du groupe éducatif ou auprès des parents d'élèves, hein, parce qu'il y a toujours des associations de parents d'élèves. Donc, soit auprès des parents d'élèves, soit auprès de l'équipe éducative, mais souvent, je fais les deux en même temps, enfin, l'un après l'autre. Voilà, donc, je serais bien si vous transmettiez ces podcasts à ceux qui sont concernés par l'école, ou alors à des médecins, à des gens qui sont concernés par les enfants, les animateurs de sport, etc. Voilà. L'enfant en deuil aussi, l'enfantendeuil@gmail.com. Merci.
Chers auditeurs et auditrices de Radio Maria, nous étions dans l'émission « Comment accompagner l'enfant en deuil » avec Marie-Madeleine de Kergorlé-Soubrié. Si vous souhaitez réécouter cette émission, n'hésitez pas à le faire en podcast sur notre site, sur le www.radiomaria.fr. Nous parlions aujourd'hui à l'école « Comment accompagner les enfants en deuil ». Et si vous souhaitez contactez Marie-Madeleine de Kergorlé-Soubrié, n'hésitez pas à le faire par mail l'enfantendeuil@gmail.com, l'enfant l'enfantendeuil@gmail.com.